Je me faisais une réflexion ce matin en relisant les lectures de la liturgie sur la manière dont la Pentecôte était présentée dans la première lecture des Actes des Apôtres, présentée comme une théophanie. Vous le savez, une théophanie, c'est une manifestation de Dieu. Des théophanies dans la Bible, il y en a un certain nombre, mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans la manière de présenter cette révélation de Dieu, cette présence de Dieu. Autant le fait d'un coup de vent, le fait de langues de feu sont quelque chose qui existe dans la Bible ailleurs, mais le fait de comprendre l'autre dans sa propre langue maternelle, ça c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Je comprends celui qui ne parle pas ma langue, je le comprends dans ce qui fait mes fondations, mes racines, mon éducation. Et au fond, c'est vraiment une très belle manifestation et explication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne d'accueillir, de découvrir le monde de l'autre, tout en parlant notre propre langue. Vous le savez, en hébreu, le mot langue se dit safa. Mais safa, comme c'est souvent le cas en hébreu, ce sont des mots valises, et donc qui veulent dire autre chose. Safa veut dire aussi rivage, veut dire aussi rive. Au fond, être mû par le Saint-Esprit, c'est comprendre l'autre dans sa manière de s'expliquer, c'est accepter qu'il y ait un vis-à-vis comme deux rives d'un même fleuve, c'est accepter que je puisse me laisser, d'une certaine manière, décentrer pour rentrer dans la carte du monde de l'autre, dans sa vision du monde, parce que chaque langue porte en elle-même une vision du monde. Et donc, c'est accepter que nous ayons une manière de nous exprimer, nous ayons une manière de dire les choses, d'exprimer le mystère de Dieu des manières différentes. Et à la fois, qu'il y ait quelque chose de commun. C'est ce différent et ce commun qui fait vraiment le cœur de la Pentecôte. Et c'est assez unique, parce qu'évidemment, il n'y a qu'une seule Pentecôte, il n'y a pas d'autre théophanie qui se présente sous cet aspect-là. Mais pour nous, c'est quelque chose de très important et à la fois un grand signe d'encouragement que l'autre peut être autre que moi, l'affirmation de l'altérité. Donc on voit toutes les langues qui étaient présentes à Jérusalem ce jour-là, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, etc. Et de voir que le Saint-Esprit a permis que chacun comprenne le mode de fonctionner de l'autre. Et ça, c'est vraiment alors qu'il n'a pas le même que le mien. C'est ça la question. Comment accueillir le mode de fonctionner, la vision du monde que l'autre a, qui s'exprime par une langue, parce qu'une langue, c'est un rivage, c'est une vision du monde, et alors qu'il n'a pas le mien, et je ne le vois pas comme une menace, si vous voulez, par rapport à ma propre vision du monde, ma propre langue. Cela s'oppose, évidemment, on fait le lien souvent et à juste titre, avec Babel. Babel, vous connaissez tous la tour de Babel. Dans la tour de Babel, justement, il n'y avait qu'une seule langue, qu'une seule manière de voir les choses, qu'un seul chemin vers Dieu, qu'une seule manière d'être en communion les uns avec les autres. Il n'y avait pas de vis-à-vis, il y avait quelque chose de monolithique. Et parfois, cette tour de Babel, elle nous joue des tours, parce que elle est d'une certaine manière dans notre construction aussi. Dans la tradition juive, on dit que la tour de Babel a été détruite, mais un tiers par Dieu. Ensuite, que l'autre tiers s'est évanoui avec l'usure du temps, mais que chacun d'entre nous, nous avons une brique de la tour de Babel en nous, dans notre construction personnelle. C'est-à-dire que nous voyons uniquement notre point de vue. Et c'est le principe, par exemple, du fanatisme. Le fanatisme, c'est qu'il n'y a qu'une seule manière de voir les choses. Le fanatique est l'homme d'un seul livre, alors que celui qui est mu par l'esprit amène avec lui une bibliothèque, amène avec lui une capacité de rentrer en contact avec ce qui est différent de lui. Oui, cette tour de Babel, parfois nous joue des tours, et il est bon que nos jours même de la Pentecôte, on puisse se rappeler que accueillir l'autre comme autre que moi, ce qu'on appelle l'altérité, ce n'est pas quelque chose d'évident, ce n'est pas spontané. C'est le fruit du travail du Saint-Esprit en nous qui nous fait nous déplacer intérieurement, qui nous fait sortir de notre zone de confort, de ce qui est connu, la langue maternelle, c'est ce qui est connu, on l'a appris en buvant le lait maternel aussi, ça fait partie de nous. Eh bien, du coup, j'accueille aussi qu'est-ce qui fait partie de l'autre, qui n'est pas mien, qui est différent de moi. Part est l'ami de Med, habitant de la Mésopotamie, et on pourrait aujourd'hui citer d'autres contrées, d'autres langues. Vous le savez certainement, le Saint-Père va venir à Marseille. Il a dit qu'il venait à Marseille, mais il ne venait pas en France, ce qui est un peu particulier. Mais il dit qu'il vient à Marseille en septembre pour les rencontres de la Méditerranée. Et il a voulu absolument venir. Dans ces rencontres de la Méditerranée, il y aura des représentants de 30 pays, les pays qui trempent leurs pieds dans la Méditerranée. Mais quand vous voyez les pays qui font trempette dans la Méditerranée, c'est complexe. C'est complexe. Tout le Moyen-Orient, déjà, il n'y a pas que ça. Donc il y a 30 pays. Donc plus dans ces pays, des habitants qui ne viennent pas originairement de ces pays, mais qui apportent avec eux leur propre tradition, leur propre vision du monde, leur propre langue. Et le Saint-Père a dit, c'est très important ce moment-là, avec les difficultés de santé que nous lui connaissons, etc. Il veut, autant que faire se peut, être présent à cette réunion, aux rencontres de la Méditerranée. Parce que précisément, c'est l'expression aussi de la Pentecôte. J'accueille l'autre qui vient d'un autre rivage, d'une autre langue, je l'accueille et je lui dis, tu es aussi bienvenu dans ma langue, sur ce côté même de la Méditerranée, sur ce côté de ma vie, sur cette manière de vivre. Alors on voit bien que c'est un sujet de tension et que la tour de Babel toujours nous joue des tours. On pense que l'unité, c'est l'uniformité. Hein, vous connaissez la devise du Troisième Reich. Un chef, un empire, un peuple, un. Il faut qu'une seule manière de penser, une seule manière de penser, un seul chemin vers Dieu, l'homme d'un seul livre, le pur, la race pure, pas de mélange. Vous voyez, c'est tout le rebours de la Pentecôte. La Pentecôte nous fait sortir de notre zone de confort. D'une certaine manière, le Saint-Esprit, il nous dérange. Il nous dérange parce que précisément, on n'est pas dans le confort de notre langue maternelle. En tout cas, on voit d'autres personnes, mais qui n'ont pas la même culture que nous. Et ce jour-là, à Jérusalem, on voit bien que c'est des personnes qui viennent de toutes les nations sur la terre, voilà, de toutes les manières d'être possibles, les visions du monde différentes. Et le Saint-Esprit, il nous dit, si tu es attentif à l'Esprit qui habite en toi, tu es un temple du Saint-Esprit, eh bien tu accueilleras l'autre comme autre que toi, mais tu le respecteras, tu l'accueilleras dans son propre langage, dans sa propre carte du monde. Alors oui, c'est quelque chose qui nous est difficile. C'est quelque chose qui demande un combat intérieur. Parce que la tour de Babel, cette brique qui reste dans chaque personne humaine, eh bien elle nous joue des tours. On pense qu'il faut qu'une seule manière de faire. Dans une même famille, c'est pareil. Pourtant, la même famille, vous dites, il y a un sang commun, il y a une langue commune, il y a souvent une religion commune, il y a beaucoup de communs. Et pourtant, faire communion dans la famille, c'est accueillir la vision du monde de l'autre, qui n'est pas ma propre vision du monde. Et faire que cette vision du monde, cet autre rivage, cet ailleurs, je puisse m'y rendre en esprit, intérieurement, pour voir comment l'autre voit la réalité et peut-être il me voit. C'est un déplacement intérieur. Et c'est là où on apprend la communion. C'est à l'intérieur même de la famille. C'est à l'intérieur de la famille où on apprend, justement, dans la fratrie avec les parents, on apprend à rentrer en contact avec des manières de faire qui sont différentes. On apprend, et puis au fur et à mesure de l'âge, ces manières de faire parfois s'affermissent. Et c'est là où on voit que on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour nous permettre d'être en lien, que la qualité du lien soit au rendez-vous, alors que nos manières de faire, nos visions, notre regard est différent. Alors, c'est quelque chose que l'on demande, que l'on supplie, parfois ça n'arrive pas. Et on demande pardon au Seigneur parce que ça n'arrive pas, parce que si c'est le sujet de l'engagement de chacun, de la liberté de chacun dans la famille, mais aussi entre les peuples. Mais déjà, commençons par la famille, c'est déjà un peu plus simple. Voilà, mais ça n'arrive pas parce qu'en fait, il y a nos libertés qui sont là. Il y a un engagement que l'un prend, que l'autre prend pas. Et donc, le Saint-Esprit, il respecte aussi ça. Il respecte aussi ce temps qu'il faut pour que nous puissions accéder au rivage de l'autre. Nous puissions être sur un autre bord, voir la réalité autrement. Alors on va demander cette grâce particulière au Seigneur, parce que c'est cette grâce-là qui nous permettra d'être témoins. C'est cette grâce-là qui nous permettra d'être témoins, d'appeler, de sortir parfois de l'entre-soi, et pape François est extrêmement déterminé là-dessus, et sa venue à Marseille est certainement un signe de ce point de vue-là. Un signe de la Pentecôte, et on demande une nouvelle Pentecôte, c'est-à-dire une nouvelle manière d'être rentré en lien les uns avec les autres, de déraciner en nous la tour de Babel, d'enlever les restants de cette brique qui est dans notre construction personnelle, de faire qu'elle s'effrite petit à petit pour que nous puissions devenir les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.